Alors tu veux faire danseur?
And push. And turn and people down.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!
Et bonjour, bonjour, re-bienvenue à votre émission Le Mans en chaussures. Nous retrouvons aujourd'hui, après cette petite pause sur la danse contemporaine que nous continuerons dans une autre émission, nous recevons aujourd'hui Luisa Velotto, une somatothérapeute qui travaille la danse à partir de la thérapie analytique. Bonjour Luisa.
Bonjour.
Alors, merci. Je veux bien que tu te présentes d'abord et après que tu puisses présenter ce que tu fais et ce que tu es en termes de ton statut, de ta façon de te nommer.
Eh bien, oui, je suis Luisa Velotto, une ancienne danseuse, aujourd'hui aussi chorégraphe. J'ai commencé par les danses du sud d'Italie, de mon pays natal, des danses traditionnelles qui s'appellent les tarentelles. Et puis, une fois venue en France, je me suis dédiée à d'autres mondes, d'autres univers de danse, africains, orientales, jusqu'à arriver à la danse contemporaine. Et petit à petit, je me suis trouvée à donner aussi des ateliers dans le milieu médical. Et en fait, grâce à ces personnes en difficulté psychique, j'ai eu le besoin de me former dans la partie psychanalytique et psychocorporelle, parce que j'avais vu que la danse, permettait de apparaître des émotions à travers le mouvement et que les personnes se sentaient vraiment après libérées et apaisées. Et donc, pour accueillir tout ça, j'ai fait un long chemin de formation personnelle, un travail de somatothérapie. Et puis, je me suis formée en danse-thérapie et art-thérapie grâce à une rigoureuse formation qui s'appelle SATIS, sur Montpellier.
Ok. Donc, on comprend bien que c'est des méthodes d'accompagnement psychocorporel qui vont essayer de aider la personne à se sentir mieux, peut-être, à retrouver quelque chose de paix, comme une paix intérieure, c'est vrai. Le terme est correct.
Une paix intérieure, je me le souhaite toujours. Après, c'est un long chemin. Ce n'est pas juste un atelier, mais effectivement, dans cet espace, la danse, elle prend le trait avec la thérapie. Puisqu'en fait, ici, dans ce cadre, les propositions sont vraiment... Il n'y a aucun enjeu d'un résultat artistique ou d'une performance artistique. Ici, nous sommes juste dans un état de pur mouvement assez spontané. Et avec l'accompagnement et la présence de danse-thérapeute qui opère dans ce cadre et qui propose parfois des musiques particulières ou des thématiques particulières pour que la personne puisse déjà se baigner dans cet espace.
Dans ce que nous avons découvert en rencontrant Luisa Velotto, ce sont ces ressources merveilleuses, ces références qu'elle tient à cœur, qu'elle m'a montrées autour d'un café, d'un thé c'était plutôt. C'est des livres qui ont été rayés, qui ont été sculptés à l'escalpel, au millimètre près, qui font partie de la colonne peut-être de ta pensée, la colonne de ta pensée. Donc si tu veux bien nous montrer, nous décrire déjà les deux qu'on a choisis.
Oui, effectivement, je tenais à cœur de présenter deux livres de Franz Scott Bielman. Le premier, c'est « Quand la danse guérit ».
Édition « Les courriers du livre ».
Oui, et puis « Le besoin de danser ». Aussi, de la même autrice. En fait, Franz Scott Bielman est une psychanalyste, une danse-thérapeute, et qu'elle a beaucoup écrit et beaucoup proposé des articles sur la danse-thérapie et sur les bénéfices de la danse. Elle a proposé aussi beaucoup d'ateliers dans plusieurs universités, comme la Sorbonne de Paris. Eh bien, elle, dans ses ouvres, elle donne vraiment l'importance à la danse, les danses de groupe, les danses rituelles, les danses rythmées, parce que pour elle, déjà, la danse, elle fait partie de l'être humain, c'est ouvert à tous, à tout âge, et enfants, anciens, personnes en situation de handicap, handicap moteur ou psychique. Et en fait, pour elle, c'est grâce à ce rassemblement entre danse et présence avec les autres, ça permet d'équilibrer la dualité de l'être humain, c'est-à-dire l'individuel et le collectif.
Le collectif, ouais.
Comme ça se danse ensemble, ces deux parties qui ont plus... Toby Nathan, un grand anthropologue que j'aime beaucoup, il disait justement que l'individualité, il est bien différent, ce n'est pas la même chose que l'individualisme. Voilà, donc dans cet espace, on peut...
Parce que je n'ai pas trop compris. Donc il dit que la dualité...
Dans cet espace, quand on danse avec les autres, eh bien, nous sommes vraiment dans un accordage entre le moi et l'autre. L'individuel et le collectif. Et dans les danses anciennes, quand ça se dansait dans les places, dans les fêtes, et quand il y avait ces retrouvailles de danse populaire, traditionnelle, rituelle, et bien dans ces cercles, ça permettait d'équilibrer l'individuel, de trouver son individualité et, au milieu d'un collectif. Et ça opérait vraiment un équilibre dans la société. Et j'ai cité Toby Nathan, un grand anthropologue, que lui, il a beaucoup allé sur les terrains en Afrique et au Sud-Amérique. Donc, il a beaucoup parlé qu'effectivement, l'individualité, ce n'est pas l'individualisme, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est important de trouver un équilibre entre sa propre identité au milieu des autres identités.
Oui, c'est un peu comme est-ce qu'on parlait de la dernière émission sur ce rituel au corps ancien. Le corps qui nous est raconté par des récits historiques où nous retrouvons la grande différence avec la société occidentale actuelle contemporaine où tout est un peu comportementalisé, tandis que ces corps-là avant étaient appelés en société à se développer, à s'exprimer d'une façon beaucoup plus ouverte.
Oui.
Et cet contact avec la danse collective nous amène à voir un corps extrêmement différent. Il y a beaucoup moins de censure, la censure sociale qu'on vit aujourd'hui, qui est tout à fait naturelle et un peu formée dans nous à cause de l'éducation, de la culture, du pays, etc. Mais à l'époque, c'était une toute autre affaire, non ?
Oui, justement, Franz Scott Bielman, il le souligne beaucoup dans ses ouvres que, en fait, si on veut parler de thérapie, la danse, la thérapie, elle a été toujours, depuis des milliers d'années, elle a été toujours thérapeutique dans le sens que dans beaucoup de traditions grecques, romaines, indiennes, sud-amérindiennes, chamaniques, ça permettait que, justement, la danse, elle permettait d'opérer vraiment comme thérapie grâce au fait qu'on pouvait, dans des répétitions de danse et de mouvement, on pouvait aller vraiment dans une forme de transe. Et que cette transe, elle permettait vraiment comme réunir le corps et l'esprit, quelque chose qui se dissociait parfois. Et donc, grâce à ces rituels, on se retrouvait dans un équilibre social beaucoup plus qu'aujourd'hui. En fait, dans les sociétés modernes, on a beaucoup perdu ces rituels, ces espaces où on se retrouve pour danser et pour se mettre en communion. Et pour cela qu'en fait, dans le XXe siècle, la danse-thérapie, elle est née.
Certainement. Je suis obligé de te poser une question que je pose souvent à mes invités sur les pièges à éviter. Souvent, les personnes qui sont confrontées à réaliser une pratique et qui ont des intervenants, ou dans ton cas, c'est des participants. Quels sont ces pièges que tu as retrouvés quand tu fais la communication avec ton participant, avec ton... Tu l'appelles comment d'ailleurs?
Souvent avec les personnes qui sont désireuses d'aller trouver cet espace de libération, les grandes pièces, souvent c'est la liberté de se retrouver dans un espace où justement il n'y a pas de code, il n'y a pas de consigne particulière. Et le grand piège, c'est se retrouver face à ses propres peurs, ses propres blocages, son propre jugement. Et surtout, en psychanalyse, on parle aussi d'une sévérité de son moi, sur cette partie de soi où on a un regard très sévère. Et du coup, le regard de l'autre, on peut projeter cette sévérité aussi sur le regard sur de l'autre. Et cette partie, ça peut être figeante. Mais là, c'est toute la qualité de l'accompagnement de danse-thérapeute qui peut aider à dépasser ce regard de l'autre et ce regard de soi, et pour qu'on fait, en fait, ça peut à petit prendre une confiance, une sécurité pour après y en vrai lâcher prise.
Et sous ces mots, sous ces invocations, nous allons entendre Invocation de Death Can Dance qui nous a recommandé aujourd'hui Luisa, et je vous laisse accompagner cette tonalité et on revient tout de suite. Ondulation, on a eu envie de se jeter par terre et de profiter de cette musique qui nous envoie à des ondes et des situations merveilleuses qu'on a tous pu entendre et ressentir à travers nos corps. Nous continuons ici aujourd'hui avec Luisa Velotto, somatothérapeute. Mais on pose la question, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment tu présentes ta pratique? Comment tu peux nous décrire à nos chers auditeurs, auditrices, ce que tu fais avec les gens?
Oui, parce qu'en fait, dans le mot somatothérapie, il y a vraiment l'importance primordiale du corps. Le corps en thérapie, le corps, ce corps qui lui, il a beaucoup de mémoire, beaucoup d'intelligence vraiment corporelle. Et dans les outils de la somatothérapie, il y a l'art thérapie et il y a la danse thérapie. Et dans mes ateliers que je propose mensuels, justement, j'accueille la personne dans toute sa globalité émotionnelle, physique, et dans toutes ses formes, dans tous ses potentiels, dans toutes ses limites. Et en fait, dans cet espace, en premier moment, je propose un langage non verbal, donc un langage corporel, des mouvements tout simples, des musiques qui sont très pertinentes aussi. Et puis, à petit, j'accompagne aussi cet espace. Je propose d'autres stimuli parfois, ou parfois je n'interviens pas du tout. Et c'est la personne qui, à petit, elle va se laisser aller dans ses mouvements et va rencontrer en elle soit une liberté d'être, soit des blocages, soit des émotions qu'elle a. Il n'y a pas d'enjeu de résultat, mais déjà la thérapie, c'est de traverser les émotions. Et s'il y a des blocages pour traverser ces émotions, là, c'est moi-même que je pourrais intervenir à aider. Parce qu'effectivement, la présence et la qualité de danse thérapeute à ce moment-là, elle est importante pour que la présence de l'autre puisse permettre le dépassement.
Dépassement, ouais. C'est souvent difficile, non? J'imagine, par exemple, les personnes qui ont peur du vide et qui se retrouvent au bord d'un précipice. Et c'est ça de quoi il s'agit. C'est une sensation très forte de blocage. Et qu'avec tes paroles, ta musique, ton accompagnement, les gens arrivent peut-être à faire le saut. Non, c'est peut-être ça.
Et oui, là, ici, il y a vraiment toute la différence entre un atelier de danse et un atelier de danse-thérapie. Okay. Parce qu'en fait, c'est vraiment, ici, c'est un cadre, déjà dès le départ, un cadre psychodynamique que le thérapeute il propose dès le départ. Le danse-thérapeute, non seulement il connaît la danse, le mouvement, le corps, mais en plus il a toutes des études en psychothérapie, en psychanalyse, pour bien accompagner les états d'âme de chaque personne. Parce qu'en fait, quand on propose un atelier de danse-thérapie, non seulement on accompagne les rythmes de chacun, on propose un rythme parfois, mais on doit aussi respecter les rythmes de chacun, mais on doit accueillir aussi toutes les émotions ou les difficultés que chacun peut traverser. Et ça, c'est vrai, c'est une vraie qualité de la présence de danse-thérapeute. C'est ça vraiment la différence, qui les personnes, quand ils viennent dans un atelier de danse-thérapie, il y a déjà une proposition différente, parce que c'est une thérapie par le corps.
Par le corps. Oui, c'est bien que tu fasses la différence, parce que c'est vrai que un processus artistique est extrêmement différent d'un processus médical ou un processus de thérapie. Mais je suis ravi de t'avoir fait venir, parce que ça nous ouvre aussi d'autres perspectives. Ici, dans cette émission, nous explorons tous les limites du mouvement corporel. Je suis ravi aussi d'entendre ton témoignage et de nous enrichir de ta pratique, de ta vision aussi, et de cette distinction. Donc, et alors, comment tu... est-ce que tu as une partition? Quelles sont les consignes? Comment est-ce que tu adresses les instructions, ou quel mot tu as déterminé pour tes exercices? Bon, il y a plein de mots.
En fait, comme tout chaque atelier corporel, il y a toujours un échauffement corporel qui est proposé pour le corps. Mais après le cadre, il n'y a vraiment pas beaucoup de, tellement très peu de consignes. Mais ce que c'est la chose la plus importante, c'est comment on propose un cadre sécurisant et bienveillant, puisque dans cet espace, la personne puisse vraiment se sentir contenue, sécurisée, et qu'on puisse toucher une confiance telle qu'elle puisse après aller dans une liberté d'expression, de mouvement, sans qu'il y ait une transmission orale, en fait. Mm-hmm. C'est vraiment quelque chose, il n'y a aucune... La personne, elle va vraiment toucher sa propre créativité. En fait, l'intention des ateliers, c'est de toucher un état tellement de grâce, d'une forme d'état modifié, parce qu'en fait, effectivement, ça permet même cela, cette expérience, d'aller juste dans d'être juste soutenu par la musique et se laisser aller par les vibrations musicales, et qui, ces vibrations musicales, ça opère une amplification des sens et que ça peut donner un état d'enthousiasme. Ce que je dis, on en parle d'enthousiasme, c'est qu'un temps, les anciens parlaient d'une transe.
Une transe. Mm-hmm. Oui, c'est intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui ont travaillé justement sur cette recherche de poser des questions au corps et de... avec plusieurs méthodes, une plus sage que les autres, mais en tout cas, c'est cette information qui est intéressante à voir une image qui m'a beaucoup frappé, c'est quand tu disais qu'il fallait faire bouger le corps pour que les émotions sortent, comme s'ils s'étaient cachés sous les plis. Je me suis imaginé, je te l'avais raconté, une sorte de Chewbacca, un Chewbacca poilu avec beaucoup, beaucoup de poils, et que si on le fait sauter, il va avoir de la poussière qui sort de ses poils, et c'est comme ça que je vois un peu les émotions d'après ta pratique. Donc on fait bouger le corps, et boum, la poussière commence à sortir, et des choses inattendues se présentent devant toi, j'imagine, non? C'est un peu ça.
Oui, parce que... Il y a des jugements même sur les émotions. Nous sommes des êtres d'émotions au départ. Hein. On a des émotions qui nous habitent. Le problème, c'est quand les émotions soit sont enfouies, jamais pu exprimer, ou trop débordantes et qui nous prennent le dessus. Mm-hmm. Et en fait, la danse, elle permet justement de les contacter, de les exprimer, de ne pas les juger et de les canaliser aussi. Mm-hmm. Et souvent, on porte beaucoup de jugements sous la colère, par exemple, parce qu'elle est mal jugée. Mais dans une forme de travail thérapeutique, l'enjeu, c'est aussi que ces émotions, elles sont justement dansées et pas... et pas exprimé dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire.
La vie de tous les jours.
Il y a vraiment une vraie... Il y a un grand dieu grec qui justement, on retrouve aussi dans les livres que j'ai choisis, mais aussi d'autres, beaucoup d'auteurs, ils sont dédiés à ce dieu, c'est Dionysios, le dieu de la transe, le dieu grec. Et lui, justement, c'était un dieu qui permettait cette forme de dépossession de ce qui nous enferme, de ce qui nous bloque. D'ailleurs, dans ces cortèges, les femmes quittaient les foyers, les maris, les enfants, tous les devoirs conjugaux pour partir dans ces cortèges. Ça montre bien qu'en fait, Dionysos y permettait un état de libération.
Mmh. Libération, oui. De quoi nous sommes esclaves encore. Une autre image qui est reliée, qui est toujours attachée à cette notion de dévoiler les émotions, de les expurger, c'est les corps tiroirs. Non, tu me parlais que le mental utilisait les corps comme une sorte de tiroir
En fait, nous avons tous plusieurs corps. Un corps psychique, il est formé de plusieurs corps. Un corps mental, imaginaire, qui est très important. Mais quand il reste que dans l'imaginaire et jamais habité par notre corps, on n'est jamais dans un autre corps vraiment réel. Et puis nous avons aussi un corps symbolique, ce qu'on travaille beaucoup dans l'espace de danse-thérapie. Et ces trois corps, en fait, c'est très important pour qu'on puisse aller dans un équilibre global de l'être humain qui a besoin de se relier à ces trois corps. Et c'est ça que la danse-thérapie, en fait, elle est opérante. Et on peut dire... soignante ou qui peut guérir quand nous sommes séparés de ces trois corps.
Waouh, quelle belle image j'ai. Oui, c'est un sujet passionnant. Quelles impulsions, quelles suggestions, quels mouvements, quelles sont tes luttes? Comment tu exprimes? Est-ce que tu as des luttes?
Si j'ai des luttes intérieures.
Non, pas intérieure, mais comment tu te positionnes par rapport à ta pratique, à ce que comment tu vois les mouvements, ce que ça apporte chez les gens, comment tu les vis chaque jour aussi, en tant que thérapeute aussi.
Aujourd'hui, je suis vraiment dans une recherche d'un état presque organique, de retrouver quelque chose de l'être dansé. Et pas de danser, de savoir-faire. C'est vraiment ce que je propose aussi, de se laisser danser, d'être justement dans ces corps qui savent, déjà qui connaissent, et pas quelque chose qu'on mentalise, mais vraiment se laisser guider de notre corps intelligent, qui lui, il n'attend rien. Il est juste là dans la présence de soi et la présence à l'autre aussi, et qui a juste besoin de vivre, de se déployer. Et en fait, pour moi, ça permet vraiment de se connaître encore plus et de se connecter encore plus à une partie de soi qui, on peut dire, l'autre de soi.
L'autre de soi. C'est très imagé. Nous sommes ici dans un univers aujourd'hui encadré... par la thérapie, et c'est un tout autre univers, bien évidemment, de ce qu'on a tendance à parler, parce que parfois j'invite des chorégraphes ou des artistes, et c'est chaque professionnel aborde le mouvement corporel à partir de son expérience et à partir de sa vision. Aujourd'hui, je suis ravi d'avoir connu Luisa, c'était par pur hasard, comme toutes les rencontres que j'ai faites. Vous pouvez contacter Luisa au 06 36 69 68 30. Elle a un site qui c'est www.artesoma.fr, où vous pouvez retrouver ces informations et toutes les propositions qu'elle fait à Pérol, parce que c'est à Pérol dont il y a le lieu où elle travaille avec ses stages de art, danse, thérapie, quand le mouvement soigne. C'était pour laisser la référence, c'était Barbara Chasseur et édition L'Armatane. C'est une troisième référence que...
Et oui, parce que quand on parle de danse, forcément on parle aussi de trans. Et voilà, donc c'est ce grand livre, La transe et thérapie sous les traces de Dionysios, ce que j'ai parlé de ce dieu... pour nous, danse thérapeute, très important, parce que c'est grâce à lui qu'on peut toucher cet état de transe. Et Barbara Chasseur, elle a fait toutes ces études sur les traces de Dionysios, qu'est-ce que ça veut dire des danses dionysiaques, et qu'est-ce que ça veut dire des danses trans.
Dans la belle voix de Luisa, je vous laisse en belle compagnie, des belles musiques cette semaine. Luisa Velotto avec nous. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau univers corporel. Peut-être ça sera la danse contemporaine toujours, qui nous tient à cœur. Et je vous souhaite des beaux mouvements et des belles situations dans votre vie, toujours en compagnie de notre petit corps.
Merci Os de cette invitation.
Avec grand plaisir, toujours plaisir.
Alors tu veux faire danseur?
And push and turn and table dance.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!